Léon Blois, La femme pauvre. Première partie, L'épave des ténèbres. Qui erant in penis tenebrarum, clamantes et dicentes, advenisti redemptor noster. Officium defunctorum. Note du donneur de voix. Ceux qui étaient dans les peines des ténèbres, criant et disant « Tu es venu, notre Rédempteur, office des défunts. » Fin de la note. Chapitre 1er. Ça pue le bon Dieu, ici. Cette insolence de voyou fut dégorgée comme un vomissement sur le seuil très humble de la chapelle des missionnaires lazaristes de la rue de Sèvres, en 1879. On était au premier dimanche de l'Avent, et l'humanité parisienne s'acheminait besogneusement au grand hiver. Cette année, pareille à tant d'autres, n'avait pas été l'année de la fin du monde, et nul ne songeait à s'en étonner. Le père Isidore Chapuis, balancier ajusteur de son état, et l'un des soulographes les plus estimés du Gros Caillou, s'en étonnait moins que personne. Par tempérament et par culture, il appartenait à l'élite de cette super fine crapule qui n'est observable qu'à Paris et que ne peut égaler la fripouillerie d'aucun autre peuple sublunaire. Crapule végétale des moins fécondes, il est vrai, malgré le labour politique le plus assidu et l'irrigation littéraire la plus attentive. Alors même qu'il pleut du sang, on y voit éclore peu d'individus extraordinaires. Le vieux balancier qui venait d'entrouvrir la crapaudière de son âme en passant devant un lieu saint représentait, non sans orgueil, tous les virtuoses braillards et vilipendeurs du groupe social où se déversent perpétuellement, comme dans un puisard mitoyen, les relavures intellectuelles du bourgeois et les suffocantes immondices de l'ouvrier. Très satisfait de son mot, dont quelques dévotes qui l'examinèrent avec horreur s'étaient effarées, il allait, d'un pas circonflexe, vers une destination peu certaine, à la façon d'un somnambule que menacerait le mal de mer. Il y avait comme un pressentiment de vertige sur ce mufle de basse canaille couperosé par l'alcool et tordu au cabestan des concupiscences les plus ordurières. Une gouaillerie morose et superbe s'étalait sur ce mascaron de gémonie, crispant la lèvre inférieure sous les créneaux empoisonnés d'une abominable gueule, abaissant les deux commissures jusqu'au plus profond des ornières argileuses ou crétacées, dont la litharge et le rogomme avaient raviné la face. Au centre, s'acclimatait depuis 60 ans un nez judaïque d'usurier ponctuel, où se fourvoyait le chien-dent d'une séditieuse moustache qu'il eût été profitable d'utiliser pour l'étriage des roussins galeux. Les yeux au poisson, d'une petitesse invraisemblable et d'une vivacité de gerboise ou de surmulot, suggéraient, par leur froide scintillation sans lumière, l'idée d'un nocturne spoliateur du tronc des pauvres, accoutumé à dévaliser les églises. Enfin, l'aspect de ce ruffian démantibulé donnait l'ensemble d'un avorton implacable, méticuleux et présent jusque dans l'ivresse que d'anciennes aventures auraient échaudé et qui, dès longtemps, n'avivait plus son cœur de goujat qu'à l'assaut des faibles et des désarmés. Il n'était pas absolument sans lettres, cet excellent père Chapuis. Il lisait couramment des feuilles arbitrales et décisives, telles que La Lanterne ou Le Cri du Peuple, croyant fort à l'avènement infaillible de la sociale et bafouillant volontiers, dans les caboulots, de pâteux oracles sur la politique et la religion, ces deux sciences débonnaires et si prodigieusement faciles, comme chacun sait, que le premier galfâtre venu peut y exceller. Quant à l'amour, il le dédaignait, sans phrase, le considérant négligeable, et si d'aventure quelque autre docteur y faisait la moindre allusion sérieuse, Aussitôt, il bouffonnait et pendiculait en s'esclaffant. C'est pourquoi l'aimable Isidore assumait la considération d'un nombre incroyable de mastroquets. On ne savait pas exactement ses origines, quoiqu'il s'affirmât d'extraction bourgeoise et périgourdine. Extraction lointaine, sans doute, puisque le drôle était né, disait-il lui-même, au faubourg du Temple, où ses parents avaient dû pratiquer de vagues négoces très parisiens sur lesquels il n'insistait pas. Il se réclamait donc volontiers d'une ascendance provinciale, digne de tous les respects et de collatéraux innombrables répartis au loin, dont il vantait les richesses, non sans flétrir avec énergie l'orgueil de propriétaires qui leur faisait méconnaître sa blouse glorieuse de citoyen travailleur. Effectivement, on n'en avait jamais vu un seul. Cette parenté problématique était ainsi à la fois une ressource de gloire et une occasion de déchaînement généreux. Mais il se déchaînait encore plus contre l'injustice de sa propre destinée, racontant, avec l'emphase des aborigènes méridionaux, la malchance d'années qui avait paralysé toutes ses entreprises et l'improbité fangeuse des concurrents qu'il avait réduit à quitter la redingote du patron pour la vareuse du prolétaire. Car il avait été réellement capitaliste et chef d'atelier, travaillant à son compte, ou plutôt faisant travailler parfois une demi-douzaine d'ouvriers pour lesquels il parut être le commandeur des croyants de la ribote et de la vadrouille éternelle. Le quartier de la Glacière se souvient encore de ces ajusteurs de rigolade, à l'équilibre litigieux qu'on rencontrait chez tous les marchands de vin, où le singe, toujours ivre-mort, leur promulguait habituellement sa loi. La déconfiture assez rapide et suffisamment annoncée par de tels prodromes n'étonna que Chapuis, qui, d'abord, se répandit en imprécations contre la terre et les cieux, et reconnut ensuite, avec une bonne foi de pochard, qu'il avait eu la bêtise d'être trop honnête dans les affaires. Quant à la source désormais tarie de cette prospérité si éphémère, nul n'en savait rien. Un petit héritage de province, avait dit vaguement le balancier. Certains bruits étranges, cependant, avaient autrefois couru, qui rendaient assez douteuse l'explication. On se souvenait très bien d'avoir connu cette arsouille avant les deux sièges, entièrement dénué de faste et trimballant d'atelier en atelier sa carcasse rebutée de mauvais compagnons. Subitement, après la commune, on l'avait vu riche de quelques dizaines de mille francs dont il avait acheté son fonds. Si la sourde rumeur du quartier ne mentait pas, cet argent, ramassé dans quelque horrible cloaque sanglant, eût été la rançon d'un prince du négoce parisien inexplicablement préservé de la fusillade et de l'incendie, l'héroïque Chapuis ayant été commandant ou même lieutenant-colonel de fédérés. La très mystérieuse et très arbitraire Clémence, qui épargna certains factieux à l'issue de l'insurrection, s'était étendue sur lui comme sur bien d'autres plus fameux qu'on savait ou supposait détenteurs de secrets ignobles et dont on pouvait craindre les révélations. On le laissa donc tranquillement cuver son ivresse de naufrageur, où il ne fut pas même inquiété, ayant eu l'art, d'ailleurs, de se rendre parfaitement invisible pendant la période des exécutions sommaires. Un peu plus tard, deux ou trois tentatives d'interview pratiquées par des reporters de l'ordre moral, ayant échoué d'une manière absolue devant l'abrutissement réel ou simulé de ce perpétuel ivrogne, on y renonça, et le père Chapuis, un instant presque célèbre, réintégra pour jamais l'obscurité la plus profonde. Il y avait ainsi sur cet homme tout un nuage de choses troubles qui lui donnait une importance d'oracle aux yeux des pauvres diables qu'il avait la condescendance de fréquenter et dont les âmes enfantines sont si aisément jugulées par tout aboyeur supposé malin. Le peuple souverain n'est-il pas devenu lui-même la volaille sacrée des superstitions antiques, pour les aruspices de cabaret, dont la police, quelquefois, utilise volontiers la pénétration. Au résumé, le vieil Isidore avait la renommée d'un sale bougre, expression générique dont la force ne sera pas contestée. Il appartenait sans aucun doute à cette lignée idéale de chenapans que la Providence institua, dès l'origine, pour l'équilibre des séraphins. Ne fallait-il pas cette vase au fleuve de l'humanité, pour que le trouble et la puanteur de ses ondes pût l'avertir lorsque quelque chose tomberait du ciel? Et comment se pourrait-il qu'un cœur fût grand sans l'éducation merveilleuse de cet inévitable dégoût? Sans Barabbas, point de rédemption. Dieu n'aurait pas été digne de créer le monde s'il avait oublié dans le néant l'immense racaille qui devait un jour le crucifier. Chapitre 2. Malgré l'irrégularité de sa démarche, il paraît que le ci-devant patron balancier avait une affaire qui ne souffrait point de retard, car il ne s'arrêta pas au rendez-vous des ennemis du phylloxéra et dédaigna de répondre aux avances d'un ébéniste gueulard qui le hélait du seuil du cocher fidèle. Peut-être aussi avait-il déjà son compte, quoiqu'il fût à peine midi, car il ne se laissa tenter par aucun de ces comptoirs de délices où, d'ordinaire, il multipliait les escales. D'ailleurs, il grommelait en crachotant sur ses bottes, symptôme connu de hargneuse préoccupation que les camarades respectaient. Ayant ainsi repoussé toute consolation, il finit par arriver à sa porte au milieu d'une triste rue de Grenelle qu'il habitait depuis sa faillite. Parvenu assez péniblement au cinquième étage d'un escalier suffocant où plombs et latrines répandaient leurs épouvantables exhalaisons, il heurta du coude, à la façon des ataxiques, une porte squameuse qui paraissait être la plus fâcheuse entrée de l'enfer. Cette porte s'ouvrit aussitôt et une vieille femme apparut, le regardant avec des yeux interrogateurs. « Eh bien, répondit-il, c'est une affaire arrangée, ça ne dépend plus que de la princesse. » Il entra et se laissa tomber sur une chaise quelconque, non sans avoir projeté dans la direction du foyer un jet de salive épaisse dont la courbe inexactement calculée s'acheva dans la ficelle d'une carpette vermiculeuse qui garnissait le devant de la cheminée. Pendant que la vieille se hâtait d'essuyer du pied cette ordure, il égrayonna surérogatoirement quelques doléances préalables. « Ah, nom de Dieu, c'est rien loin, ce cochon de faubourg honoré, et pas le rond pour prendre l'omnibus, sans compter qu'il a fallu poser pour l'attendre, ce peintre de mes pieds qui travaille pour les aristos. Il n'était pas encore levé à 10 heures, et pas trop poli avec ça. J'avais bonne envie de l'engueuler, mais je me suis dit que c'était pour ta fille et que c'est pas trop tôt tout de même qu'elle nous foute un peu de galette depuis 6 mois qu'elle est à rien faire. Dis donc, vieille poison, y a rien à boire ici ?» L'interpellé lança vers le ciel 2 grands bras arides en accompagnant ce geste d'un très long soupir. « Hélas, mon doux Jésus! Que répondrai-je à ce pauvre chéri qui se donne tant de mal pour sa malheureuse famille? Vous êtes témoin, bonne sainte Vierge, qu'il n'y a plus rien dans la maison, que tout ce qui valait 2 sous a été porté au Mont-de-Piété, et que toutes les reconnaissances ont été engagées pour avoir du pain. Ah, mon aimable Sauveur, quand me retirerez-vous de ce monde où j'ai déjà tant souffert? » Le mot « souffert », visiblement travaillé depuis des années, expirait dans un sanglot. Isidore, étendant la main, saisit à plein poing le jupon de la cafarde et la secouant avec énergie. « En voilà assez, hein? Tu sais que je n'aime pas que tu me fasses ta sale gueule de jésuite. Si c'est une danse qu'il te faut, tu n'as qu'à le dire, tu seras servi illico et à l'œil. Et puis, c'est pas tout ça. Où est-elle, ta bougresse de fille ?
Mais, Zizi, tu sais bien qu'elle devait aller chez la cousine Amédée, au boulevard de Vaugirard, pour tâcher moyen de lui emprunter une pièce de 100 sous. Elle m'a dit qu'elle ne serait pas plus d'une heure. Quand tu as frappé, je croyais que c'était elle qui rentrait.
Tu ne m'avais pas dit ça, vieux corbillard. Sa cousine est une salope qui ne lui foutra pas à radis, puisqu'elle m'a refusé à moi l'autre jour, en me disant qu'elle n'avait pas d'argent pour les pochardises. Je la retiens, celle-là.
Ah, bon Dieu, bon Dieu, malheur de malheur, ajouta-t-il presque à voix basse.
C'est Bibi qui se charge de lui chambarder sa boîte à punaises quand viendra la prochaine.
Enfin, suffit. Nous l'attendrons en suçant nos pouces et nous verrons si Mademoiselle des Égards veut bien faire à ses vieux parents l'honneur de les écouter.
Raconte-moi donc plutôt ta course de ce matin, dit en s'asseyant la doucereuse Mégère. Tu dis que ça s'est arrangé avec ce monsieur Gacoumiol?
Mais oui. 2 francs de l'heure et 3 ou 4 heures tous les jours. Si la personne le botte, bien entendu. C'est un bon turbin, pas fatigant, qui ne l'arrêtera pas, pour sûr. Il faut que ta mauviette soit chez lui demain à 11 heures. Ça se décidera tout de suite. Le chameau n'a pas l'air commode. Il m'a fait un tas de questions. Il voulait savoir si elle avait des amoureux, si on pouvait compter sur elle, si elle ne se saoulait pas de temps en temps.
Est-ce que je sais, moi? J'avais envie de lui dire « Hmm ».
Il paraît qu'on ne m'aurait pas reçu sans la lettre du proprio. C'est un peu vexant tout de même d'avoir besoin de la protection de ces gens foutres qui se défient de l'ouvrier comme si c'était du caca. En revenant, j'ai patiné jusqu'à la Croix-Rouge pour taper un copain qui fait des journées de 15 francs dans la piété. Encore un qui n'est pas large des épaules, celui-là. Il m'a allongé 3 francs et encore j'ai payé la seconde tournée. Il est temps que Clotilde nous vienne en aide. J'ai fait assez de sacrifices. Et puis, moi, d'abord, je suis pour la politique et la rigolade, et l'atelier commence à me faire de l'effet par en bas. Zut !
Ici, la vieille fit entendre un nouveau soupir de colombe sépulcrale et dit
« 4 heures à 2 francs, 8 francs, ça nous soutiendrait ? Mais tu n'as pas peur que ce monsieur lui demande des choses trop difficiles ?
Je te dis ça, mon Isidore, parce que je suis sa mère à cet enfant. Il faudrait lui faire comprendre que c'est pour son bien. J'en ai parlé ce matin. J'y ai dit que c'était pour se faire tirer en portrait par un grand artiste. Et ça lui a fichu le trac.
Ah, la sacrée garce! Est-ce qu'elle va encore nous la faire à l'impératrice?
Attends un peu, je vais t'en fourrer de la dignité. Quand on n'a pas d'argent, on travaille pour en gagner et pour nourrir sa famille. Je ne connais que ça, moi.
Une rafale de silence vint couper le dialogue. Il semblait que ces deux êtres eussent peur de se refléter l'un dans l'autre en trahissant les sales miroirs de leur cœur. Chapuis se mit à bourrer sa pipe avec des gestes oratoires pendant que sa très digne femelle, toujours assise, les bras croisés et la tête légèrement inclinée sur l'épaule gauche, dans une attitude piaculaire d'hostie résignée, se tapotait du bout des doigts les os des coudes, en laissant flotter son regard dans la direction des cieux.
Chapitre 3. Le tabernacle était sinistre, éclairé par le livide plafond de ce ciel glacé de fin d'automne. Mais on peut supposer que le soleil rutilant des Indes l'aurait fait paraître encore plus horrible. C'était la noire misère parisienne attifée de son mensonge, l'odieux bric-à-brac d'une ancienne aisance d'ouvriers bourgeois lentement démeublée par la noce et les fringales. D'abord, un grand lit napoléonien qui avait pu être beau en 1810, mais dont les cuivres dédorés depuis les 100 jours le vernis absent, les roulettes percluses, les pieds eux-mêmes lamentablement rapiécés et les éraflures sans nombre attestaient la décrépitude. Cette couche sans délices à peine garnie d'un matelas équivoque et d'une paire de draps sales, insuffisamment dissimulée par une courte pointe gélatineuse, avait dû crever sous elle 3 générations de déménageurs. Dans l'ombre de ce monument qui remplissait le tiers de la mansarde, s'apercevait un autre matelas, moucheté par les punaises et noir de crasse, étalé simplement sur le carreau. De l'autre côté, un vieux Voltaire, qu'on pouvait croire échappé au sac d'une ville, laissait émigrer ses entrailles de varech et de fil de fer, malgré l'hypocrisie presque touchante d'une loque de tapisserie d'enfant. Auprès de ce meuble que tous les fripiers avaient refusé d'acquérir, apparaissait, surmonté de son pot à eau et de sa cuvette, une de ces tables minuscules de crapuleux garneaux qui font penser au jugement dernier. Enfin, au-devant de l'unique fenêtre, une autre table ronde en noyer, sans luxe ni équilibre, que le frottement le plus assidu n'aurait pas fait resplendir, et trois chaises de paille, dont deux presque entièrement défoncées. Le linge, s'il en restait, devait se fourrer dans une vieille malle poilue et cadenassée sur laquelle s'asseyaient parfois les visiteurs. Tel était le mobilier, assez semblable à beaucoup d'autres dans cette joyeuse capitale de la bamboche et du désarroi. Mais ce qu'il y avait de particulier et d'atroce, c'était la prétention de dignité fière et de distinction bourgeoise que la campagne sentimentale de Chapuis avait répandue comme une pommade sur la moisissure de cet effroyable taudis. La cheminée, sans feu ni cendre, eût pu être mélancolique, malgré sa laideur, sans le grotesque encombrement de souvenirs et de bibelots infâmes qui la surchargeaient. On y remarquait de petits globes cylindriques protégeant de petits bouquets de fleurs desséchées. Un autre petit globe, sphérique, monté sur une rocaille en béton conchylifère, où le spectateur voyait flotter un paysage de la Suisse allemande. Un assortiment de ces coquillages univalves dans lesquels une oreille poétique peut aisément percevoir le murmure lointain des flots. Et deux de ces tendres bergers de Florian, mâles et femelles, en porcelaine coloriée, cuits pour la multitude, on ne sait dans quelle manufacture d'ignominie. À côté de ces œuvres d'art, se découvraient des images de dévotion, des colombes qui buvaient dans un calice d'or, des anges portant à brasser le froment des élus, des premiers communiants, très frisés, tenant des cierges dans du papier à dentelle, puis deux ou trois questions du jour, où est le chat, où est le gars champêtre, etc., inexplicablement encadrés dans des passe-partout. Enfin, des photographies d'ouvriers, de militaires ou de négociants respectables des deux sexes. Le nombre était incroyable de ces effigies qui montaient en pyramide jusqu'au plafond. Çà et là, le long des murs, dans les intervalles des guenilles, quelques cadres étaient appendus. Évidemment, on se serait indigné de n'y pas trouver la fameuse gravure, si chère au cœur féminin, enfin seule, dans laquelle on ne s'arrête pas d'admirer un monsieur riche qui serre décidément dans ses bras, sous l'œil de Dieu, sa frémissante épousée. Cette gravure de notaire ou de fille en carte était la gloire des Chapuis. Ils avaient amené un jour un cordonnier de Charenton pour la contempler. Le reste, d'effrayantes chromolithographies achetées aux foires ou délivrées dans les bazars populaires, sans s'élever jusqu'à ce pinacle esthétique, ne manquait pas non plus d'un certain ragoût et surtout de cette distinction plus certaine encore dont la mère Chapuis raffolait. Cette gueuse minaudière était une des plus décourageantes incarnations de l'orgueil imbécile des femmes et la carie contagieuse de cette os surnuméraire, suivant l'expression de Bossuet, aurait fait reculer la peste. Elle était enfant naturelle d'un prince, disait-elle mystérieusement, d'un très noble prince, mort avant d'avoir pu la reconnaître. Elle n'avait jamais voulu dire le nom du personnage, ayant déclaré sa résolution d'ensevelir ce secret glorieux dans le plus intime de son cœur. Mais toutes ces hauteurs de chipie venaient de là. Personne, bien entendu, n'avait entrepris la vérification de cette origine. Il fallait pourtant qu'il y eût quelque chose de vrai, car la quinquagénaire faisandée, qui concubinait avec l'immonde Chapuis, avait été une femme assez aristocratiquement belle, supérieure, par comparaison aux milieux ouvriers dans lesquels elle avait toujours vécu. Fille d'une ravaudeuse quelconque et d'un père inconnu, elle s'était trouvée à 18 ans, soudainement accommodée d'une petite fortune et mariée presque aussitôt à un respectable industriel de la rue Saint-Antoine. Il est vrai que l'éducation première avait manqué d'une façon indicible. Ayant à peine connu sa mère prématurément ravie à la prostitution clandestine, elle avait été recueillie et adoptée par une matelassière de Montrouge. Cette marâtre, suscitée par l'influence probable du fameux prince, l'éleva soigneusement dans la rue. Elle n'aurait pu d'ailleurs lui conférer avec des gifles quotidiennes que sa personnelle expérience du crin végétal et de la filasse, initiation que ne mentionnait pas sans doute le programme d'études. Elle envoya donc l'enfant à l'école où les acquisitions de ce jeune esprit ne dépassèrent pas en plusieurs années l'art d'écrire sans orthographe et de calculer sans exactitude. Mais la vase de divers égouts n'eut pas de secret pour elle. Le biceps arithmétique ne devait se développer que plus tard, c'est-à-dire à l'arrivée de l'argent. Lorsque ce visiteur fut annoncé, sous la réserve conditionnelle de l'acceptation d'un certain mari, la touchante vierge lacédémonienne, oublieuse des renards qui avaient pu ravager son flanc, découvrit en elle tout à coup les germes auparavant ignorés de la plus âpre vertu, et le négociant qui l'épousait, heureux d'une caissière légitime qui ferait prospérer son comptoir, n'en demanda pas davantage. Elle devint alors la bourgeoise pour le temps et l'éternité. Son langage, par bonheur, conserva la succulence faubourienne. Elle disait fort bien « Donnez-moi-en et allez leur-y dire ». Mais en même temps que changeait son destin, son âme se trouva miraculeusement purifiée de l'escafignon des rues de Paris et de la gravéolence des banlieues infâmes où s'étaient pourries les tristes fleurs de sa misérable enfance. Assainissement et oubli complet. En un mot, elle fut une épouse irréprochable. Ah, juste ciel ! Et qui devait attirer pour sûr les bénédictions les plus rares sur la boutique de l'heureux époux qui ne comprenait pas son bonheur. Naturellement, elle avait de la religion, parce qu'il est indispensable d'en avoir quand on est du monde bien. Une religion raisonnable, cela va de soi, sans exagération ni fanatisme. On était en plein règne de Louis-Philippe, roi citoyen, et c'était à peine si toutes les vaches universitaires ou philosophiques de cette époque lumineuse, pouvait suffire au vaccin qu'on inoculait à l'esprit français pour le préserver des superstitions de l'Ancien Régime. Toutefois, la jeune Madame Maréchal, tel était le nom de cette chrétienne, n'endurait pas les plaisanteries sur la piété, et son mari, qui adorait la gaudriole de Béranger, dut être souvent ramené, de façon sévère, au sentiment des convenances de sa position. Car, il est temps de le déclarer, cette personne vraiment ineffable était avant tout une âme poétique. Le trésor de poésie qui gisait en elle lui avait été révélé par quelques méditations de Lamartine, qu'elle appelait son divine Alphonse, et par deux ou trois élégies farinières de Jean Reboul, telles que « L'ange et l'enfant », « Charmant enfant qui me ressemble, la terre est indigne de toi. » Quand elle eut une fille, après 2 ans de mariage, ce bégueulisme s'exaspéra jusqu'à produire la plus haïssable et la plus rechignée de toutes les pécores. En conséquence, le quartier était unanime et n'avait qu'un cri pour célébrer l'impeccable rigidité de ses mœurs. Une fois, pourtant, l'envié maréchal surprit sa femme en compagnie d'un gentilhomme peu vêtu. Les circonstances étaient telles qu'il aurait fallu
non seulement être aveugle, mais sourd autant que la mort, pour conserver le plus léger doute. L'austère matrone, qui le cocufiait avec un enthousiasme évidemment partagé, n'était pas assez littéraire pour lui servir le mot sublime de Ninon. « Ah, vous ne m'aimez plus, vous croyez ce que vous voyez, et vous ne croyez pas ce que je vous dis. » Mais ce fut presque aussi beau. Elle marcha sur lui, gorge au vent, et d'une voix très douce, d'une voix profondément grave et douce, elle dit à cet homme stupéfait « Mon ami, je suis en affaire avec monsieur le comte. Allez donc servir vos pratiques, n'est-ce pas ?» Après quoi, elle ferma sa porte. Et ce fut fini. 2 heures plus tard, elle signifiait à son mari de n'avoir plus à lui adresser la parole, sinon dans les cas d'urgence absolue, se déclarant lasse de condescendre jusqu'à son âme de boutiquier et bien à plaindre, en vérité, d'avoir sacrifié ses espérances de jeune fille à un malotru sans idéal qui avait l'indélicatesse de l'espionner. Elle n'oublia pas, en cette occasion, de rappeler sa naissance illustre. À dater de ce jour, l'épouse exemplaire ne marcha plus qu'avec une palme de martyr, et l'existence devint un enfer, un lac de très profonde amertume, pour le pauvre cocu dompté qui se mit à boire et négligea ses affaires. La vie est trop courte et le roman trop précaire pour que le poème de cette décadence commerciale puisse être ici raconté. Voici l'épilogue. Au bout de 4 ans, la faillite était consommée, le mari enfermé dans un asile de gâteux, et, ruiné du même coup, la femme avec l'enfant logée d'une manière quelconque au fond du faubourg Saint-Jacques, où la clémence d'un créancier lui avait permis d'apporter quelques-uns de ses anciens meubles. La martyre vécut là jusqu'en 1872, époque mémorable où elle fit la connaissance de Chapuis. Ses ressources étant nulles, elle subsista néanmoins assez confortablement de ses travaux prétendus d'aiguille qu'elle exécutait, il faut croire, à la satisfaction des personnes puisqu'elle se disait accablée de commandes, quoiqu'on ne la vît coudre que très rarement dans sa chambre. Mais il faut supposer aussi qu'elle s'exténuait en ville, car elle rentrait ordinairement fort tard, et souvent même ne rentrait pas du tout. La pauvre enfant grandissait comme elle pouvait, dans une crainte horrible de sa mère, qui la contraignait quelquefois à passer la nuit pour l'attendre, ayant besoin, disait-elle, de trouver au logis des preuves d'affection et de dévouement, après une journée saintement accomplie dans le travail. Cette petite fille, qui devint ainsi peu à peu une jeune fille, et même une femme, bien que mal nourrie et plus mal vêtue, conserva longtemps une tremblante admiration pour sa mère, qui ne la battait pas trop, qui l'embrassait même, de loin en loin, dans des jours de crise maternelle, et dont la mise, inquiétante pour une ouvrière, l'étonnait. Elle croyait naïvement à la réalité des insondables souffrances de cette sacrilège farceuse qui la conduisait une fois par an sur la tombe de son père mort sans repentir et lui racontait, avec la voix des saintes veuves agonisantes, le châtiment rigoureux de cet impie qui avait méconnu et brisé son cœur. La lumière vint plus tard, extrêmement tard. Lorsque, travaillant elle-même d'une façon très réelle et très dure, et nourrissant à peu près sa mère qui commençait probablement à dégoûter le trottoir, elle la vit, lâchant tout à coup ses airs augustes, devenir la femelle et la concubine attitrée du sinistre voyou dont le seul aspect l'emplissait d'horreur. La veuve maréchale, ainsi transformée en femme Chapuis, désignée même quelquefois sous le nom plus euphonique de Mère Isidore, avait dès lors vieilli salement sous la botte active du chenapan qui l'assommait volontiers. L'odieuse créature qui n'avait jamais aimé personne l'adorait inexplicablement, lui appartenait corps et âme, jouissait d'être rossée par lui,
et aurait fait calciner sa fille pour lui plaire. Elle n'était humble que devant lui, ayant gardé avec tous les autres ses anciennes manières d'autruche qui la faisaient exécrer. Physiquement, elle était devenue hideuse, au désespoir du ruiné Chapuis, qui n'aurait pas abhorré de liciter sa tendre compagne, mais qui ne pouvait plus l'offrir désormais qu'en qualité de guenille bonne à laver les dalles des morts dans un hôpital de lépreux.
Chapitre 4. La porte s'ouvrit enfin et Clotilde parut. Ce fut comme l'entrée d'Avril dans la cale d'un ponton. Clotilde Maréchal, la fille à Isidore, comme on disait dans Grenelle, appartenait à la catégorie de ces touchants et tristes dont la vue ranime la constance des suppliciés. Elle était plutôt jolie que belle, mais sa haute taille, légèrement voûtée aux épaules par le poids des mauvais jours, lui donnait un assez grand air. C'était la seule chose qu'elle tint de sa mère, dont elle était le repoussoir angélique, et qui contrastait avec elle en disparates infinis. Ses magnifiques cheveux du noir le plus éclatant, ses vastes yeux de gitane captive, d'où semblaient couler des ténèbres, mais où flottait l'escadre vaincu des résignations, la pâleur douloureuse de son visage enfantin, dont les lignes, modifiées par de très savantes angoisses, étaient devenues presque sévères. Enfin, la souplesse voluptueuse de ses attitudes et de sa démarche lui avait valu la réputation de posséder ce que les bourgeois de Paris appellent entre eux une tournure espagnole. Pauvre espagnole, singulièrement timide, à cause de son sourire, on ne pouvait la regarder sans avoir envie de pleurer. Toutes les nostalgies de la tendresse, comme des oiselles désolées que le bûcheron décourage, voltigeaient autour de ses lèvres sans malice qu'on aurait pu croire vermillonnées au pinceau, tellement le sang de son cœur s'y précipitait pour le baiser. Ce navrant et divin sourire, qui demandait grâce et qui bonnement voulait plaire, ne pouvait être oublié quand on l'avait obtenu par la plus banale prévenance. En 1879, elle avait environ 30 ans. Déjà 30 ans de misère, de piétinement, de désespoir. Les roses meurtries de son adolescence de galère avaient été cruellement effeuillées par les ouragans dans la vasque noire du mélancolique jardin de ses rêves. Mais quand même, tout un orient de jeunesse était encore déployé sur elle, comme l'irradiation lumineuse de son âme que rien n'avait pu vieillir. On sentait si bien qu'un peu de bonheur l'aurait rendue ravissante, et qu'à défaut de joie terrestre, l'humble créature aurait pu s'embraser peut-être, ainsi que la torche amoureuse de l'Évangile en voyant passer le Christ aux pieds nus. Mais le Sauveur, cloué depuis 19 siècles, ne descend guère de sa croix tout exprès pour les pauvres filles. Et l'expérience personnelle de l'infortunée Clotilde était peu capable de la fortifier dans l'espoir des consolations humaines. Quand elle entra, la vue de Chapuis la fit reculer instinctivement. Ses jolies lèvres frémirent et elle parut sur le point de prendre la fuite. Cet homme était en effet le seul être qu'elle crut avoir le droit de haïr, ayant souffert par lui d'une épouvantable façon. Elle referma la porte, cependant, et dit à sa mère, en jetant sur la table une pièce de 50 centimes, « Voilà tout ce que ma reine a pu faire pour nous. » Elle allait se mettre à table, et son déjeuner sentait bien bon. « Mais je savais que tu m'attendais, petite mère, et je n'aurais pas osé lui dire que j'avais très faim. »
Isidore se mit à beugler. « Oh, la vache! Tu ne lui as pas foutu ça par la figure, cette Héloïse du champ de Navet qui a gagné plus de 100 000 francs à se mettre sur le dos avec sa sale carne à cochon. Vrai, t'es pas dégourdi, ma fille. »
Il s'était levé de sa chaise pour dilater son gueuloir, et la doléance apitoyée de la faim
fut accompagné d'une gesticulation de vieux paillasse à décourager la muse de l'ignominie. Les joues pâles de Clotilde étaient déjà pourpres, et les sombres lacs de ses yeux, si doux, flamboyèrent. « D'abord, cria-t-elle, je ne suis pas votre fille, Dieu merci, et je vous défends de me parler comme si vous étiez mon père. Et puis, ma marraine est une honnête femme que vous n'avez pas le droit d'insulter. Elle nous a rendus assez de service depuis longtemps. Si elle n'est pas plus généreuse aujourd'hui, c'est que vous l'avez dégoûtée par votre hypocrisie et votre fainéantise de pochard. Entendez-vous ? J'en ai assez, moi aussi, de votre insolence et de vos méchancetés. Et si vous n'êtes pas content de ce que je vous dis, j'aurai bientôt fait partir et de quitter cette baraque de malheur, quand je devrais mourir dans la rue. » La vieille, à son tour, s'élança entre les deux adversaires et profita de l'occasion pour dégainer le grand jeu pathétique inventé par elle, qui consistait à roucouler sur divers tons en ramant de ses deux mains jointes du haut en bas et d'orient en occident. « Oh, mon enfant, est-ce ainsi que tu oses parler à celui que le ciel nous a envoyé pour adoucir les derniers jours de ta pauvre mère, qui s'est sacrifiée pour toi ? Moi aussi j'ai été belle dans ma jeunesse, et j'aurais pu m'amuser comme tant d'autres et courir le monde comme une fille de rien si j'avais écouté le tentateur. Mais j'ai su me ranger à mon devoir, et je me suis immolée à ton père. » Que le bon Dieu et tous ses saints me préservent d'accuser le malheureux devant sa fille. Mais je prends le ciel à témoin des douleurs que m'a fait endurer cet homme sanguinaire qui se baignait dans mes larmes et se repaissait de mes tourments. Ce que mon cœur a souffert, c'est un secret que j'emporterai avec moi dans la tombe. Ô Clotilde, épargne le cœur brisé de ta sainte mère. N'augmente pas son martyre. Respecte aussi les cheveux blancs de ce noble ami qui doit me fermer les yeux. Et toi, mon consolateur, mon dernier amour, pardonne à cet enfant qui ne te connaît pas. Montre-toi généreux pour qu'elle apprenne à te chérir et à t'adorer. Oh, mon Zizi, oh, ma Clo-Clo bien-aimée, vous m'abreuvez de fiel et d'absinthe. Vous rouvrez toutes mes blessures. Vos querelles redoublent en moi le désir de mon éternelle patrie où les anges tressent ma couronne. Tuez-moi plutôt. Tenez, je m'offre en holocauste. Me voici entre vous deux. » Et la papelarde sinistre, abaissant son chef déplumé dans la direction présumée de son fameux cœur, se tenant debout au pied d'une croix invisible, lança ses immenses bras vers l'un et l'autre horizon, geste suprême et définitif qui la fit ressembler à quelque potence géminée d'une ancienne fourche patibulaire. Chapuis, manifestement embêté, n'avait aucun désir bien actuel de tuer qui que ce fût. En l'absence de Clotilde, et surtout en d'autres circonstances, une claque certaine aurait arrêté dès le début le tragique monologue. Mais il comptait agir sur la volonté de la jeune femme qu'une brutalité nouvelle pouvait rendre indomptable, et qui aurait assurément défendu sa mère contre lui, malgré sa honte infinie de la trouver si menteuse et si ridicule. Il prit en conséquence le parti d'adopter une conciliante et persuasive bonhomie. « Allons, c'est bien la veille. Tu peux aller t'asseoir, personne n'a envie de te démolir. On a le temps d'y penser jusqu'à Noël, si tu peux mettre, d'ici là, un peu de margarine sur tes abatis. » « Mademoiselle Clotilde, ajouta-t-il avec une pointe de blague aussitôt réprimée, donnez-vous donc la peine de prendre une chaise. Vous savez qu'on ne les paye pas. Vous m'avez mécanisé tout à l'heure, mais je ne vous en veux pas. On a besoin de s'engueuler de temps en temps, n'est-ce pas, la mère? Ça entretient l'amitié. Vous m'avez traité de pochard. Mon Dieu, je ne dis pas, je ne me fais pas meilleur qu'un autre. Mais on se doit des honnêtetés entre camarades, quand on n'est pas des sauvages. Et un petit verre par-ci par-là, ça ne fait de tort à personne. Ta mère non plus ne crache pas dessus, quand ça se rencontre. Mais c'est pas ça que j'avais à te dire. Il y a que je t'ai trouvé une position, du bon travail bien payé. Ça ne te crèvera pas de faire voir ta peau à un peintre et de poser en petite bonne vierge pour ses tableaux. 2 francs de l'heure, c'est à regarder quand on est dans la mélasse. Et puis, faut pas croire à des bêtises. D'abord, la vieille n'aurait pas voulu. Et je ne suis pas un marlou, peut-être. On aime à lever le coude, c'est possible, mais on a sa dignité. Si ce particulier te manquait de respect, il aurait affaire à moi, Isidore Chapuis. Tu pourras lui dire ça de ma part. » Sur ce dernier mot, ayant redressé crânement son torse d'insecte et frappé de la main ses côtes sonores, il s'arrêta un instant pour cracher de nouveau dans la cheminée et reprit en montrant l'odieux Galta. Reluque-moi le belvédère. C'est coquet pour ces marquises. Est-ce qu'on peut recevoir quelqu'un ici? On ne demande pas la chambre des pairs, mais tout de même, on se plairait ailleurs que dans un pareil goguenot. Seulement, il ne faudrait pas faire ta tête de mademoiselle tout en noir. On ne veut pas de manger. On ne te demande que d'être une bonne fille bien raisonnable et de nous aider à ton tour. C'est juste, pas vrai? On t'a pas laissé manquer du nécessaire depuis que t'es sorti de l'hôpital et que tu te croises les bras toute la sainte journée. » La tremblante Clotilde était comme une hirondelle dans la main d'un vagabond. La scène grotesque de sa mère avait éteint sa faible colère et glacé son âme. Un dégoût immense et une humiliation infinie la tenaient immobile sous le regard désormais triomphant du misérable, dont le langage l'épouvantait en la profanant. Il y avait en elle une trop ancienne acceptation des amertumes pour que ses révoltes fussent désormais autre chose que de très pâles et très rapides éclairs. Puis, les derniers mots l'accablaient. Elle s'accusait d'avoir été inutile pendant plusieurs mois, d'être restée étendue et sans force des journées entières, et d'avoir mangé le pain de cet homme abominable. Il fallait donc, ô Dieu de miséricorde, avaler encore cette ignominie, devenir un modèle d'atelier, de la chair à palette, faire toiser son corps du matin au soir par des peintres ou des sculpteurs. Ce n'était peut-être pas aussi déshonorant que la prostitution, mais elle se demandait si ce n'était pas encore plus bas. Elle se souvenait très bien d'en avoir vu de ces femmes en passant le matin devant l'école des beaux-arts avant l'ouverture des ateliers. Elle lui avait paru horrible de canaillerie, d'impudeur professionnelle, de lâche torpeur accroupie, et il lui avait semblé que le dernier échelon de la misère eût été de ressembler à ce bétail de l'Académie et du Chevalet que le vieux Dante eût pensivement examiné en revenant de son enfer. Il le fallait bien, sans doute, puisqu'elle avait dû renoncer à son métier de doreuse qui avait failli lui coûter la vie, et qu'ayant perdu force et courage, elle n'était plus bonne à rien qu'à souffrir et à être traînée par les pieds ou par les cheveux dans les immondices. Elle ne répondit pas, s'étonnant elle-même d'être sans un mot de protestation. Accablée de lassitude, elle parut s'incliner. La mère, alors, estimant la bataille gagnée, vint lui prendre la tête entre ses bras, de manière à pouvoir joindre ses mains sur le chignon, et, dans cette posture, exhala vers le ciel d'actives actions de grâce pour le remercier, comme il convenait, d'avoir attendri le cœur de sa fille. À ce spectacle, Chapuis se souvint aussitôt d'un rendez-vous important dont l'urgence était extrême et disparut, laissant quelques centimes pour ne rentrer qu'à 3 heures du matin, complètement saoul.
Chapitre 5. On a deviné que le matelas étalé par terre dont il fut parlé plus haut appartenait à Clotilde. Il serait facile de passer pour un narrateur infiniment vraisemblable en supposant une couche moins romantique et plus douce. Mais telles sont les mœurs d'un certain monde populaire et cette histoire douloureuse n'est que trop véridique en ses détails. Elle dormait là depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis la ruine de Chapuis. Auparavant, on habitait un appartement assez confortable aux environs du parc Montsouris et Clotilde avait sa chambre. Mais la culbute soudaine et totale du balancier n'avait pas permis qu'on y restât plus longtemps qu'il ne fallait pour trouver un nouveau gîte qui fût un peu moins inclément que l'hôtellerie de la Lune. À la réserve de 6 semaines passées à l'hôpital et qui, par comparaison, lui avaient paru bien heureuses, la pauvre fille avait donc couché là 2 ans, derrière l'ordure de ses 2 vieillards infâmes dormant auprès d'elle, roulée dans ses guenilles, en proie aux affres d'un dégoût mortel que l'accoutumance n'avait pu guérir. Elle ne dormit guère cette nuit-là. Ses pensées la faisaient trop souffrir. Elle avait froid aussi et grelottait sous la ficelle de ses haillons, car l'effrayant hiver de cette année, si funeste aux pauvres, commençait déjà. Elle songeait, en regardant les ténèbres, que c'était pourtant bien cruel de n'avoir pas même le droit de pleurer dans un misérable coin. Car, en supposant que l'horreur de salir ses larmes ne l'eût pas empêché de les répandre quelquefois sur le fumier de cette étable à cochons, une effusion si mélancolique eût été blâmée, à l'instant, comme une preuve d'égoïsme et de lâcheté criminelle. Chapuis n'aurait pas manqué de lui prodiguer l'ironie de ses consolations ordurières, et la martyre eût ravalé devant elle son vieux calice au milieu d'une bourrasque de soupirs, en la suppliant au nom du ciel de vouloir bien comparer ses douleurs aux siennes. Dès son enfance la plus lointaine, cette chenille du purgatoire avait exigé rigoureusement qu'elle ne se plaignît jamais, prétendant qu'une enfant doit être la récompense de la couronne d'une mère. Elle avait même là-dessus d'humides phrases empruntées à la rhétorique jaculatoire des images de dévotion qu'elle idolâtrait. Le cœur de la malheureuse fillette, comprimé dans un étau implacable, avait donc résorbé silencieusement ses peines, sans avoir jamais pu se barricader ni s'endurcir. Quoi qu'on pût lui faire, elle agonisait de la soif d'amour, et n'ayant personne à chérir, elle entrait parfois au milieu du jour dans les pénombrales églises pour y sangloter à l'aise au fond de quelques chapelles tout à fait obscures. Pauvre être abandonné! C'était dur de penser qu'elle n'avait pas eu d'autre joie dans son enfance, ni dans les plus fraîches années de sa jeunesse. Sans doute, elle avait bien essayé de se lier avec les apprentis qu'elle avait connus à son atelier de dorure. Mais sa timidité presque maladive leur avait déplu. Sa douceur extrême et la noblesse ingénue de son maintien avaient révolté ses petites souillasses qui la traitèrent de poseuse, en même temps qu'une pudeur instinctive la préservait de leurs putréfiants exemples. Ah, certes, elle avait tout appris, et ses oreilles ne lui avaient guère permis d'ignorer les fanges les plus intimes de l'humanité d'en bas. Mais le ramage vicieux de ses impubères ne pénétrait pas son âme, qui demeurait aussi chaste que le rosaire d'une visitandine. C'est pour cela qu'elle allait offrir ses larmes au Dieu des églises, sans savoir qu'elle accomplissait ainsi le grand sacrifice, la béatifique et la formidable offrande, qui a beaucoup plus, sans doute, que le pouvoir de déplacer les constellations, puisque le Seigneur Jésus n'a pas obtenu de boisson meilleure pour le réconforter dans la sueur de sang et dans l'agonie. Elle n'était pourtant pas ce que les éaques des sacristies appellent une pieuse enfant. Elle avait reçu le semblant d'instruction religieuse que confèrent ordinairement, dans les paroisses de Paris, les entrepreneurs de catéchisme. Sa mère, qui ne se livrait à d'autres pratiques dévotieuses que l'invocation postiche d'un ciel décousu et qui pensait, comme toute vraie guenon bourgeoise,
que les simagrées offenses de notre Créateur n'étaient pas précisément le modèle qu'il aurait fallu pour l'acheminer à la perfection chrétienne. Elle lui avait fait faire sa première communion à l'exemple de toutes les paillardes femelles des boutiquiers, parce que c'était l'occasion d'un exceptionnel déploiement de sensibilité maternelle. Mais elle aurait approuvé les exagérations superstitieuses de la prière et, surtout, l'inutile effusion des larmes dans des endroits écartés. Scrupuleusement, elle observait la profonde liturgie des détaillants orthodoxes, laquelle consiste à tirer les rois, à manger de la merluche le vendredi saint, des crêpes à la Saint-Jean, de la cochonaille à Noël et surtout, oh surtout, apporter des fleurs aux chers absents le jour des morts. Le paroxysme du délire eût été de lui demander davantage. Oui, 16 heures d'attendrissement avaient été les meilleures de la vie de Clotilde, et le simulacre de passion qui lui était venu plus tard ne les avait certes pas values. Au moins, elle ne lui avait pas laissé d'amertume, 16 heures bénies, où les sources de son cœur invoquaient silencieusement les sources du ciel. Elle se souvenait d'avoir senti la douceur même, et quand elle fondait en pleurs, c'était comme une impression très lointaine, infiniment mystérieuse, un pressentiment anonyme d'avoir étanché des soifs inconnues, d'avoir consolé quelqu'un d'ineffable. Un certain jour, ah, ce souvenir ne s'effacerait jamais, un personnage lui avait parlé, un prêtre à longue barbe blanche de patriarche, portant la croix pectorale et l'améthyste, et qui paraissait venir de ces solitudes situées aux confins du monde, où se promènent, sous des cieux terribles, les lions évangéliques de l'épiscopat. Voyant pleurer une si jeune fille, il s'était approché, la considérant avec bonté. Il l'avait bénie d'une très lente bénédiction, en remuant doucement les lèvres, et lui posant ensuite la main sur la tête, à la façon d'un dominateur des âmes. « Mon enfant, avait-il dit, pourquoi pleurez-vous ? » Elle l'entendait encore, cette voix calme et pénétrante, qui lui avait paru la voix d'un être surhumain. Mais qu'aurait-elle pu répondre en un tel moment, sinon qu'elle se mourait du désir de vivre ? Elle le regarda seulement de ses grands yeux de chevrette perdue, où se lisait si bien sa peine. C'est alors que l'étranger ajouta ces paroles étonnantes qu'elle ne devait jamais oublier. « On a dû, quelquefois, vous parler d'Ève, qui est la mère du genre humain. C'est une grande sainte aux yeux de l'Église, quoiqu'on ne l'honore guère dans cet Occident où son nom est souvent mêlé à des réflexions profanes. Mais on l'invoque toujours dans nos chrétientés du Vieil Orient, où les traditions antiques se sont conservées. Son nom signifie la mère des vivants. Dieu, qui fait toutes nos pensées, a voulu sans doute que je me souvinsse d'elle en vous voyant. Adressez-vous donc à cette mère qui vous est plus proche que celle qui vous engendra. Elle seule, croyez-moi, peut vous secourir, puisque vous ne ressemblez à personne, pauvre enfant qui avez soif de la vie. Peut-être aussi l'Esprit-Saint vous a-t-il marqué de son redoutable signe, car les voies sont bien inconnues. Adieu, ma douce fille. Je repars dans quelques instants pour des contrées éloignées, d'où je ne reviendrai probablement jamais, à cause de mon très grand âge. Cependant, je ne vous oublierai pas. Quand vous serez dans les flammes, souvenez-vous du vieux missionnaire qui priera pour vous au fond des déserts. » Et il était parti, en effet, après avoir laissé une pièce de 20 francs sur l'accoudoir du prie-Dieu, où Clotilde resta clouée par l'étonnement et par le respect le plus indicible. Incapable de se renseigner sur le champ, elle ne sut rien de ce vieillard qu'elle crut avoir été envoyée tout exprès par le père des enfants qui souffrent. Il fut pour elle simplement le missionnaire. En souvenir de lui, elle s'adressait souvent avec une tendresse naïve à cette mère commune dont nul autre prêtre, assurément, ne lui eût ainsi parlé, et souvent aussi, elle se demanda ce que pouvaient bien signifier ces « flammes » au milieu desquelles il faudrait un jour qu'elle se souvînt de son visiteur. Elle se fit naturellement voler les 20 francs par sa mère, qui ne demanda pas d'explication, et qui lui laissa même un peu plus de liberté qu'auparavant, jusqu'au jour où, ne voyant décidément pas affluer de nouveaux trésors, elle redevint la douaigne farouche et lui déclara qu'elle était trop sotte pour qu'on lui permît de s'exposer aux séductions et aux aventures. L'innocente fille ne connaissait pas alors cette horrible vieille, ainsi qu'on l'a fait observer, et ne devait sentir que plus tard l'abomination de ses calculs. Tout le passé remontait ainsi dans sa mémoire pendant cette insomnie douloureuse. Elle avait à peine 16 ans à l'époque du missionnaire, et depuis, qu'était-elle devenue, grand Dieu ? Elle qui avait cru sangloter dans les bras des anges, et à qui le Seigneur même voulut envoyer un messager, dans quel abîme de profanation n'était-elle pas descendue ? Elle n'arrivait pas à comprendre cette chute affreuse. N'aurait-elle donc pu, s'appuyant sur la prière, sur les sacrements, sur tous les pilastres des lieux saints où le Sauveur agonise, échapper à cette infâme espérance de bonheur terrestre qui l'avait si férocement déçue ? Car les faits sont inexorables. Ils ne connaissent point la pitié, et l'oubli même, si on pouvait l'obtenir, est sans pouvoir pour anéantir leur témoignage accablant. Toute la puissance des cieux ne pourrait faire que je n'ai pas appartenu volontairement à cet homme et que je ne sois pas souillé de lui jusque dans la mort. Ô mon Dieu, mon Dieu !»